Jean-François Kahn est en ligne avec nous à présent. Bonsoir, Jean-François.
Bonsoir.
Jean-François, je voudrais rappeler quelque chose que vous aviez dit avant tout le monde. Alors, c'est pas... D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Mais en tout cas, ça, vous l'aviez vu avant tout le monde. Vous avez dit, attention, la France insoumise est en retrait, est en déclin, recule. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de reculer plus et qui même l'a fait avancer, c'est Gaza. Et je voudrais, et vous êtes vraiment l'un des tout premiers à avoir dit ça. Et on voit bien que le choix stratégique de la France insoumise de transformer l'élection européenne en une élection pour Gaza, qui était un choix pas gagné d'avance. Si vous voulez, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais a permis à la France insoumise de vraiment de talonner les 10%, ce qui est quand même un gros objectif. Et pour n'importe quel parti de ce niveau-là, vraiment les... Ce qu'on appelle un nombre à deux chiffres, c'est très important. Mais alors, je vais vous donner un exemple. Ils ont passé tout leur samedi à s'occuper de Gaza. Ils ont passé tout leur samedi... Je vais donner un autre exemple. Ils ont introduit un drapeau d'un pays arabe à l'Assemblée nationale. Donc ça a un effet double. C'est-à-dire que ça fait monter le Rassemblement national qui dit non, c'est plus possible. Et eux... ça les renforce dans leur électorat. Donc comment est-ce que vous expliquez ce double phénomène et comment est-ce que vous réagissez, vous, ce soir, après l'avoir un peu prédit ?
Ben, en effet, vous l'avez bien résumé. Normalement, le front, les insoumis, les mélenchonistes, cette extrême-gauche-là, aurait dû dégringoler à 6 et même en dessous de 6. Il suffisait d'écouter les gens il y a encore 6 mois, leur façon de se conduire au Parlement, par exemple, leur façon de transformer chaque manifestation en émeute, qui s'en prenait aux vitrines, aux commerçants, enfin tout ça, créait une espèce de rejet profond de ce qu'étaient les insoumis. En effet, je vous disais la dernière fois que vous m'avez appelé, je disais... ils font un calcul qui, de mon point de vue, est horrible, un calcul insupportable, qui est leur seule façon de se faire, c'est de jouer totalement le communautarisme. C'est-à-dire, puisqu'il y avait l'affaire de Gaza, de profiter de cela, d'exploiter jusqu'à plus soif, jusqu'à l'antisémitisme, cette affaire de Gaza, pour pouvoir rameuter tout l'électorat musulman, l'électorat d'ailleurs au-delà musulman immigré, qui est souvent solidaire, si vous voulez, et puis une partie des jeunes aussi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ils auraient dû tomber au-dessous de 6%, ils étaient en train de remonter, ils sont à 10, et on voit où est-ce qu'ils ont fait des scores. Mais c'est très clair. En Seine-Saint-Denis, 35. Dans les endroits où la population musulmane est très forte, ils font 40%, 41%. Partout où vous avez...
Val d'Oise,
mais Seine-Saint-Denis d'abord, Val d'Oise, partout où il y avait des villes ghettoisées, ils font des scores énormes. J'ajoute, c'est encore plus frappant, c'est les Français de l'étranger. Où est-ce qu'ils arrivent en tête ? En Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Bahreïn, etc. Là, ils arrivent largement en tête. Alors, il faut dire aussi, pour dire totalement la vérité, qu'en Israël, c'est Marion Maréchal qui est arrivé en tête.
Zemmour, 42%.
Ouais.
Et même, on a trouvé des Israéliens voter pour Bardella. Je ne suis pas moins étonné qu'on ait réussi à trouver 50 personnes voter.
Ils ont vraiment voté plus Marion Maréchal.
Oui, 42%, très exactement. Mais je répète un peu ma question. Il y a quand même quelque chose d'étonnant de voir comment ça a fonctionné, puisque c'était un pari qui était très risqué, en fait. Parce qu'on peut mal le prendre, même d'ailleurs quand on est une maman arabe avec des enfants scolarisés, on ne trouve pas de stage pour le fils, le gosse, étudiant, il va aller vivre en coloc, si jamais on y est. Et de voir Mélenchon nous parler de Gaza tous les samedis, tous les dimanches, au bout d'un moment, on a envie de lui dire « Non, mais il n'y a pas un problème de santé en France. » Et finalement, ça a fonctionné. Mais est-ce que ça a fonctionné uniquement sur une base communautaire ? Moi, je ne suis pas sûr, puisque on voit les manifestations, elles sont très jeunes, et ce n'est pas seulement sur une base ethnique.
Les élections, quand on voit la carte électorale, on voit que ça fonctionnait d'abord sur un mode communautaire, c'est très clair. Alors là, je pense que les journaux le feront dans les jours qui viennent. Enfin, les journaux qui veulent bien le dire, parce qu'il y en a qui ne voudront jamais l'admettre. C'est très, 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 très nettement un vote majoritairement. Alors, des musulmans ou des immigrés qui, à part ça, sont en désaccord total avec les insoumis, qui sont contre les homosexuels, qui sont contre le Pax, qui sont contre l'égalité homme-femme, etc. Mais là-dessus, ils ont voté à cause de l'exploitation de Gaza pour les insoumis. Il faut dire aussi, d'une façon plus générale, que ce qui joue électoralement, surtout au moment même d'un vote, c'est moins la rationalité que l'émotion. Mais des émotions, on n'en a pas tous les jours. Il n'y a pas tous les jours de quoi provoquer des émotions. Là, il se trouve que de part et d'autre, d'ailleurs, y compris des Juifs qui se sentent agressés par ce pogrom, et de l'autre côté aussi, les événements de Gaza ont provoqué un phénomène émotionnel très fort. Et ce phénomène émotionnel s'est traduit aussi bien d'un côté, d'ailleurs, par une progression, comme vous le dites, d'extrême droite, que par une progression des insoumis qui l'ont exploité.
Et ça peut refonctionner. Ça marche de nouveau, ça, aux législatives.
Aux
législatives. Parce que les européennes, on dit toujours, il n'y a pas de frais. Hein. De toute façon, Parlement européen, à quoi ça sert? Vous pensez que ça peut marcher pour les législatives?
Oui, parce que comme ils ont fait 10%, ça ne serait pas marché s'ils étaient tombés à 6%. Les gens disent, il y en a marre, ça ne sert plus à rien, ça aurait été la catastrophe pour eux. Et on allait vers ça, on allait vers ça. À partir du moment où il y a eu cette espèce de rebond, si vous me demandez si ça va marcher, il n'y a aucune chance qu'ils gagnent les législatives. Et il n'y a aucune chance d'ailleurs que la gauche, faisant alliance avec eux, gagne les législatives. Mais ils peuvent sauver les meubles, disons. Moi, c'est ce que je vous avais dit. Je me souviens très bien, je vous avais dit, à cause de ça, au lieu de faire 6, Mélenchon, au lieu d'éringoler à 6, il peut remonter à 12. Mmh. Et à 12, il peut être en tête de la gauche. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et au deuxième tour, qu'est-ce qui l'intéresse, Mélenchon? Son rêve, si j'ose dire, enfin, compte tenu de la situation. Évidemment, son rêve total, ça serait de gagner des élections. Enfin, autour de lui, ça vient que c'est impossible. Donc son rêve, c'est de rester en tête de la gauche, si possible, et au deuxième tour, de faire passer l'extrême droite.
Est-ce que, là, avec un résultat de 10%, il va aller voir Glucksmann et lui dire, écoute, Raphaël, t'as fait un coup, bravo, mais tu sais très bien que tu pourras pas en faire. Je veux dire, les gens qui tiennent les sections à Avignon, à Montpellier, à Aix-en-Provence, à Roubaix, à Sarcelles, c'est nous. Et est-ce qu'il va... C'est ça qu'il va dire.
Non, mais ça va se faire, mais ça ne va pas marcher.
Mais qui va être le leader?
Il n'y en aura pas, et c'est pour ça qu'ils vont perdre. Entre autres, ce n'est pas la seule raison. Mais évidemment, il va dire à Glucksmann, écoutez, oui, c'est vrai, aux socialistes, c'est tout à fait, vous avez fait un score, mais c'est tout à fait, comment dirais-je, aléatoire. Enfin, bref. Bon, ils vont essayer. D'ailleurs, ils ont déjà essayé. L'Union de la gauche, le Front populaire, dont ils seraient les éléments, premiers, primordiaux. Mais les autres, forts du fait que Glucksmann est arrivé en tête, n'accepteront pas. Et déjà, ils disent, nous sommes pour un Front populaire. Ils disent la même chose. Nous sommes pour un Front populaire. Mais les autres disent, nous sommes un Front populaire avec une majorité socialiste. Donc, l'idée dont Glucksmann ou les tenants de Glucksmann seraient l'aile marchande. Voilà. Ben, ils ne se mettront pas d'accord. Enfin, de toute façon, regardez les chiffres. Je veux bien qu'on ne vote pas aux législatives comme aux européennes, mais quand même, on ne vote pas l'inverse. Et en plus, tous les sondages montrent qu'à des élections européennes, les résultats, c'est pas loin des européennes, en plus. Bon. L'extrême droite fait dans les 41%, 42. L'ensemble des extrêmes droites fait dans les 41, 42. L'ensemble des gauches et des écologistes font 31.
Ah, ils sont loin derrière.
Donc la seule façon pour la gauche et pour les républicains de faire un front et d'empêcher une victoire de l'extrême droite, ça serait une alliance de toute la gauche et du centre et du centre-droit. Ça serait les seuls. C'est la seule façon. Il n'y en a pas d'autres. C'est pour pas, faut arrêter de se raconter des blagues. C'est mathématique. Il n'y en a pas d'autres. Même ça, c'est pas sûr que ça gagnerait entre nous. Parce que je vous ai dit que l'extrême droite faisait 41, mais j'ajoute qu'il y a 5% de la droite Ciotti qui est elle-même radicalisée, dont on est sûr qu'ils voteront pour l'extrême droite au deuxième tour. Donc en fait, c'est du 48%. C'est du 48% à 31%. Donc la seule façon, ça serait un front qui irait de toutes les gauches au centre droit.
Impossible. Mission impossible.
De Macronie.
Mission impossible.
Mais Mélenchon s'y opposera absolument.
Mais c'est ses électeurs qui voudront pas.
D'autant plus que je vous l'ai dit, qu'il souhaite faire le meilleur score au premier tour, mais il souhaite que l'extrême droite gagne au second.
Je pense que c'est impossible parce que l'électeur de Mélenchon ne veut pas. Vous dites pas à un électeur de Mélenchon, on va faire une alliance avec Macron parce qu'il vous met contre le mur et il vous envoie au mur des fédéraux.
Oui, mais c'est ce que je vous dis. Et puis j'ajoute une chose, c'est là où le candidat député sera insoumis, une grande partie de l'électorat de gauche républicaine ne votera pas pour lui. Ne
votera pas pour lui, ça c'est sûr, à Paris par exemple. Une dernière question, Jean-François Kahn. Pour profiter de votre expertise. On a deux possibilités, on a deux lectures. Soit Macron s'est dit, je vais la faire de manière mitterrandienne. Je vais les user. Ils vont gagner les législatives. Mais pendant 2 ans, je vais leur faire une guérilla. Moi, je serai le garant des institutions. Vous connaissez par cœur cette histoire, Jean-François Kahn. Je vais tout leur refuser. En leur disant que c'est pas républicain, que c'est pas constitutionnel, je vais tout trouver, je vais avoir une belle stature et après on repart aux élections 2 ans plus tard. Premier point. D'après moi, c'est plutôt ça. Mais il y a le deuxième. Et vous allez nous dire, vous, vers quelle grille de lecture vous penchez? La deuxième, c'est, il va y avoir un front. Et finalement, comme c'est moi qui suis au centre, je vais sauver plein de députés, c'est moi, le front républicain, c'est moi. Macron, il se dit quoi ce soir? Pourquoi il a fait ça?
La deuxième hypothèse aurait pu être retenue si le résultat n'était pas ce qu'il est. Peut-être dans sa tête, il y a ce rêve, mais il n'est pas très crédible. En revanche, la première hypothèse, est sérieuse. Hein. C'est-à-dire tous les cas de cohabitation ont profité au président qui cohabitait. Tous. C'est-à-dire, pour Chirac, Jospin, il a mis Jospin en gouvernement, parce qu'ils avaient gagné, finalement il a été réélu. Mitterrand, il avait mis la droite au gouvernement parce qu'elle avait gagné, finalement il a été réélu. Donc il y a quand même cette idée, au fond, laissons-les gouverner, et comme ça on sera réélu. Mais il y a un problème. Le premier problème, c'est qu'il ne se représente pas, Macron. C'est pas lui. Donc, déjà, ce n'est pas le phénomène Macron, Chirac ou Mitterrand, savoir je serai réélu. Or, s'ils se mettent tous d'accord sur un candidat, comme ça a été le cas d'opposition, comme c'était le cas avec Mitterrand et Chirac, oui, ça marche, mais là, ils ne se mettront pas d'accord. D'abord, ce n'est pas sûr, ils ne se mettront pas d'accord. Déjà, chez les macronistes, pour retrouver un candidat, peut-être ils finiront par se mettre d'accord sur un candidat, mais ils vont se disputer comme des chiens avant. Et de toute façon, c'est comme en législative, la gauche, en partie la gauche macroniste, n'acceptera absolument pas de se reporter sur un candidat macroniste au deuxième tour. Donc c'est peut-être ce calcul, mais c'est un calcul extrêmement dangereux.
Périlleux. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Jean-François Kahn, « Ne m'appelez plus jamais gauche ». C'est un livre qui est paru aux éditions de l'Observatoire, si je ne m'abuse.
Mais vous ne l'avez pas lu.
On ne me l'a pas envoyé. Alors je vous le dis, on est en direct, il est 18h36. J'avais dit, vous allez venir me parler de votre livre. Je ne l'ai pas reçu. Mais alors, vous voyez, je vois dans le mois... là qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Et donc je viendrai avec un très bon livre dans les mains, je vous le promets, mais ils ne me l'ont pas donné. Merci en tout cas d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous, Jean-François.
Au revoir.